Jusqu'à midi, le point de Max.
OK, oui, 11h, une minute, ben pile. Reste encore une belle heure à passer ensemble. Et pour les prochaines 25-30 minutes, je suis bien accompagné en studio. Audrey Pinchot, salut!
T'es bien fin, ma tête, oui.
Comme toujours.
C'est vrai. T'es relativement gentil.
T'as bien l'air fatigué aujourd'hui.
Hey!
C'est une blague. C'est une blague.
Je suis pas de bonne humeur,
oui,
en plus.
Oui, t'as l'air. Ça fait changement.
Hier, j'étais vraiment morte.
C'est-tu vrai?
Pour vrai, vraiment. Mon Dieu, je suis contente que tu me dises que tu le sentais pas. J'ai fait tellement de route pour revenir de la Côte-Nord mardi qu'on dirait que, je sais pas, t'es débalancé un peu.
Ouais,
là.
Je comprends.
Mais non, super de bonne humeur aujourd'hui, contente d'être là.
Je sais, hier, t'avais zéro enthousiasme envers mes démarches pour nous réserver une chambre d'hôtel pour
c'est
MGK.
Vrai. Puis d'habitude, j'en ai.
Je chantais que je te dérangeais vraiment parce que j'essayais de te plaire avec mon choix de chambre.
Ouais, t'as pris une chambre avec du tapis. C'est dur de plaire à une fille dans ce temps-là. On repensera pour tes skills. Ouais. Je sais que c'est pas facile
mais
de ce côté-là.
T'as-tu hâte?
J'ai vraiment
hâte. Le 10 décembre, MGK.
On peut pas faire un open mic sans en parler, hein?
Non, là, t'exagères. Sorry in advance. My head's a mess. T'es excité? Hey, moi, depuis qu'il a commencé sa tournée il y a deux soirs, puis j'ai vu la setlist, là. It sounds cliché, but tell me what you wait for me. Baby, I'm a
rolling stone. I got a lot of right in me. Ça va être très bon. Ça va être très
Il y a autour de 35 tunes dans cette liste, dont des chansons que je pensais jamais qu'il allait faire. Tu sais, des vieilles tunes, l'album Bloom, que tu connais même pas,
non,
toi,
pas
Audrey,
tout.
Mais que moi, là-dessus, la tune 27,
j'espère juste qu'ils vont faire beaucoup de Tickets to My Downfall.
Ben, il a fait
que...
au complet.
Ah, mon Dieu, ben parfait.
Il fait Tickets to My Downfall au complet pour le 5e anniversaire de l'album.
Honnêtement, je suis très excitée. Je pense que ça va être une super belle soirée. Il faut juste pas qu'il annule. Parce que les billets, c'était pas facile.
Oui, mais ça s'est amélioré dans les derniers jours. Puis les autres shows autour...
Mais toi, tu vis d'espoir. Je peux pas avoir confiance en toi, celle-là.
Au contraire, au contraire.
Ce serait n'importe quel autre artiste aurait le même discours.
Absolument. Puis même qu'MGK, je serais peut-être plus inquiet puis j'essaierais de me convaincre qu'il va annuler. Là, les shows autour vendent bien. Fait qu'il annulera pas juste Montréal. Ça a bien vendu dans les derniers jours. Je pense qu'ils ont aussi peut-être fermé le top, mettons.
Ah,
puis qu'ils vont descendre
aide,
du monde. Fait que il va y avoir un show le 10 décembre de MGK au Centre Bell et l'hôtel est réservé, Audrey, avec, comme tu le demandais, un seul lit. C'était ça la demande?
Hey,
parce que moi, c'est
Dieu.
Ça que j'ai réservé.
Là. OK, OK, OK. Ben, je vais demander un lit d'appoint. Okay. C'est toi qui vas dormir dessus, par exemple. Hey, on fait comme un genre de suivi aujourd'hui. Vous allez comprendre un peu où je m'en vais. J'ai déjà parlé de choc post-traumatique avec un gars qui s'appelle Simon Rondeau, qui est travailleur social depuis à peu près probablement 14 ans maintenant, ish. Mais il est intervenant depuis plus de 20 ans. Il a son bac en criminaux. Puis Simon m'a écrit après nous avoir entendu parler de sexomnie. J'avais le discours comme quoi c'est facile comme excuse, me semble. Sexomnie, pour les gens qui n'ont aucune idée c'est quoi, là, c'est le fait de faire de l'insomnie puis de poser des gestes à caractère sexuel.
Ben, du somnambulisme.
C'est quoi j'ai dit?
T'as dit insomnie.
Non, somnambulisme, oui, on se comprend. Ce qui fait que t'es pas totalement conscient de tes gestes. Puis c'est un terme qu'on entend de plus en plus dans les dernières années. Puis ben ça revenait, je veux dire, dans l'actualité culturelle, tiens, avec Stat dans les dernières semaines, où il y a un cas que le gars, ben il se masturbe dans la chambre de ses enfants sans s'en rendre compte parce qu'il fait du somnambulisme, donc de la sexomnie. Puis ben je trouve parfois que la santé mentale a peut-être un peu le dos large dans notre système de justice. Tu sais, je pense à un Pierre-Nice Saint-Amand du côté de Laval qui a foncé dans une garderie, qui a tué des enfants. J'ai peu de sympathie, même si visiblement c'est sûr qu'il y a un problème au deuxième étage. Tu fais pas ça en étant totalement conscient, là. Fait que je trouve qu'on a l'impression souvent que les gens s'en sortent facilement avec notre système judiciaire, qu'ils sont pas punis à cause de leurs troubles de santé mentale. Puis Simon s'est proposé pour nous en parler un peu de la non-responsabilité criminelle. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. L'open mic. Just in time for open mic. Avec Audrey Pinchot. First time I tried an open mic, I knew. C'est peut-être un sujet qui peut être sensible, voire challengeant pour certains. Si vous avez des questions, des commentaires, peu importe, 88-971-1021 par texto. Évidemment, il y a également le Twitch, twitch.tv/BLVD/FM. Simon, bon matin.
Bonjour.
Je veux juste te dire qu'il y a peu de gens qui se seraient proposés pour parler de ce sujet-là parce que c'est ce que j'aime appeler un bâton à marde.
Ouais.
C'est difficile de se placer parce qu'on est dans une société où on veut prendre soin de notre santé mentale. On veut pas la banaliser. Au contraire, on essaie de dire aux gens, on fait de la prévention, allez consulter, prenez soin de vous autres. D'un autre côté, quand il y a des crimes qui sont commis sur la personne, quand il y a des vies qui se perdent, c'est un peu difficile d'être sensible aux cas de santé mentale.
Totalement.
C'est utilisé dans quel cas, la non-responsabilité criminelle? En fait, si on peut mettre des mots peut-être un peu plus clairs là, pour les éditeurs.
Dans le fond, la non-responsabilité en cas de santé mentale, c'est utilisé principalement quand... Dans le fond, notre système, hein, il est basé sur deux choses qu'on évalue quand il y a un crime. On évalue l'acte, qu'on appelle l'actus reus, pour flasher ma théorie, là, à mon latin. Puis la mens rea, qui est l'intention. Fait que dans le fond, quand on a un crime, on doit toujours voir c'est quoi l'acte, est-ce que c'est criminel et c'est quoi l'intention. Est-ce que c'est délibéré ou est-ce que c'est fait involontairement? Est-ce que c'est fait alors que la personne n'était pas dans ses capacités de réfléchir, de planifier son geste et de mettre son plan en application? Fait que là où on arrive à la non-responsabilité, c'est quand on a le geste, mais qu'on voit clairement que l'intention n'était pas là. On ne peut pas démontrer que la personne, à ce moment-là, s'est dit « oui, je vais faire mal à telle personne de telle façon ». Puis ça peut être, des fois, la santé mentale, ça peut être, il y a plein de circonstances, dans le fond, dans lesquelles on peut être un peu… Oui, c'est ça.
Mais on dirait que là où j'ai de la misère, c'est qu'à mon sens, quand tu commets un crime… clairement, ta santé mentale va pas bien. Comprends-tu ce que je veux dire?
Tout à fait.
Mettons, t'es un psychopathe, puis tu commets des meurtres en série. On s'entend que ta tête est pas claire. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien dans le cerveau.
Oui, sauf que tu peux être psychopathe puis très bien planifier tes crimes et très bien savoir qu'est-ce que tu vas faire. Là où tu seras pas responsable, c'est si t'es pas en mesure.
La conscience, finalement.
C'est la conscience, oui, exactement. Puis... Tu sais, je pense que c'est important de le dire d'emblée, tu sais, ta réaction est normale, puis ça enlèvera jamais toute la tristesse de ces gestes-là. Hein? Tu sais, ça reste dégueulasse, ça reste vraiment touchant, mais faut séparer les émotions du système de justice.
À quel moment on a commencé à le faire, ça, d'avoir la fameuse non-responsabilité criminelle? Parce que j'ai comme l'impression que c'est pas de même depuis le début, là, parce qu'il fut une époque où... Je veux dire, on devait se dire, non, t'as fait le crime.
C'est une excellente question. Honnêtement, j'ai pas la réponse sous la main. Depuis quand c'est comme ça? Je peux dire que ça commence à faire un bout que j'ai fait mes études. Hein, mon bac, il date du début 2000, puis c'était comme ça. C'est sûr qu'il y a eu une montée des connaissances en psychiatrie qui a amené ça éventuellement. Effectivement, je suis pas mal sûr que si on remonte d'une couple de générations, le crime était fait, c'est tout, puis envoyer la corde au cou, puis on se pose pas trop de questions.
Ben, en fait, c'est comme la peine de mort, là, dans le sens
où c'est ça. Mais sans mettre de date précise, il y a eu un tournant dans l'histoire, principalement au Québec, puis j'ai envie de départager un peu le système de justice, par exemple, américain, puis le système de justice québécois, parce que souvent, c'est ça qu'on compare. Hein,
oui, puis on l'envie. On se dit tout le temps, eux autres sont punis pour vrai. Les nôtres sont caressés dans le sens du poil.
Exactement. Le système américain est basé sur la punition. On va avoir des longues, longues peines, des fois qui n'ont pas d'allure, hein, des gens qui vont cumuler plusieurs crimes, qui se ramassent avec 150 années de détention, alors que clairement, ils ne se rendront pas là. Mais eux, leur système, c'est comme plus on en donne, plus c'est fort. Alors qu'au Québec, on a choisi un système basé sur la réadaptation. Donc, notre objectif, c'est de se servir de nos outils qui comprennent la détention, qui comprennent des suivis, qui comprennent un paquet d'éléments pour ramener la personne le plus rapidement possible à un niveau de fonctionnement social.
Il n'y aurait pas moyen de faire un entre-deux. Je vais prendre le cas d'Alexandre Bissonnette, par exemple, à la mosquée. Peu importe son état mental, OK, là, 6 personnes.
Oui.
Dans ma tête à moi, là, c'est 6 sentences. C'est 6 vies que tu as enlevées. Je me demande, il n'y a pas un genre d'entre-deux qu'on est capable d'aller chercher dans notre système de « on va traiter cette personne-là si elle a des problèmes de santé mentale », mais hey, justice n'est pas rendue, là. C'est la vie de 6 personnes, 6 familles complètement détruites.
Ah oui, c'est... Je suis vraiment... Tu sais, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est vraiment touchant. L'affaire, c'est qu'ici, on s'est rendu compte qu'il y avait comme un sweet spot. Hein? Si on t'envoie en détention, sur le coup, c'est pas le fun. Puis si, tu sais, on veut te garder là juste assez longtemps pour que tu vives le malaise, mais pas assez longtemps pour que ça devienne un mode de vie. Pas assez longtemps pour que tu te fasses des chums en détention, que tu apprennes à faire plus de crimes, mm-hmm. puis que tu sortes de là complètement déphasé par rapport à la société, complètement frustré, que là, à un moment donné, ben, tu te justifies que tu vas faire ce que tu veux, parce que de toute façon, les gens n'ont jamais tenu compte de toi, n'ont jamais pris soin de toi, même quand tu n'allais pas bien. Hein? Ce qu'on a fait, c'est qu'on t'a sacré en dedans, puis qu'on t'a laissé avec des bombes pendant je sais pas combien de temps. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on fait ça, les gens y ressortent plus violent, plus dangereux. Donc, rendu là, serait comme tout ou rien. Il faudrait comme soit pas le faire ou soit les laisser en dedans toute leur vie, parce que dire ben tu vas punir, on va te punir, tu vas passer 15 ans dedans puis tu vas ressortir, c'est pas vrai que t'es encore un citoyen fonctionnel. Là. Ça fait 15 ans que tu gères plus tes repas, que tu gères plus aucune responsabilité citoyenne. Ça fait 15 ans que t'es entouré de monde qui parle de criminalité. Fait que
mais d'un autre côté, le fait que notre système est un peu mou aux yeux de certains, ouais. ça fait pas en sorte qu'il y ait des criminels qui s'en battent un peu de se ramasser en tôle, parce que de toute manière, c'est pas vraiment la vie dure.
Ben, honnêtement, je pense que de pas choisir à quelle heure tu manges puis de pas choisir qu'est-ce que tu fais dans ton après-midi, c'est quand même un peu la vie dure. Je suis d'accord que, tu sais, on sait qu'il y a des prisons qui ont pas mal moins de confort que celle-là du Québec. T'sais, j'en ai visité des établissements de détention, puis me faire dire « Ah, tu sais, ce midi, on sait que telle gang, faut pas manger là, le dîner, parce que c'est telle gang qui l'a fait, puis tu sais, il y a des petits il y a des petites épices secrètes dedans. » Moi, personnellement, là, ça me tente pas pantoute, là. Mais, tu sais, c'est sûr que quand t'as vécu de la violence, quand t'as vécu des abus, quand t'as vécu des inégalités, ça se peut qu'à un moment donné, ça soit plus assez pesant pour t'empêcher de commettre un crime.
Ouais.
Mais on pense que c'est mou en santé mentale, et c'est là-dessus que je voulais qu'on parle.
C'est drôle parce que le fameux concept de non-responsabilité criminelle pour trouble mental, tu sais, je disais, ça doit avoir été amené quand on parlait de santé mentale l'avant. Dans le droit pénal canadien, là, le concept de non-responsabilité criminelle pour trouble mental. Au début, j'ai lu vite, je pensais que j'avais vu 1992. Je me suis dit, OK, ça fait quand même... C'est 1880. Fait que ça a comme toujours... 92, semble-t-il, que c'est depuis ce temps-là que c'est dans le code criminel. En 85, il y a eu des modifications importantes par rapport à ce volet-là. Et en 2014, il y a eu la loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle. Fait que là, avec les informations qu'on avait en 2014, ben il y a eu des changements, encore une fois. Mais quand même, on voit à quel point ça a toujours été important au Canada, historiquement, de considérer ça.
J'aurais pas pensé que c'était aussi loin que ça, honnêtement.
Ils envoient probablement en institution. Puis, c'est quoi les vraies conséquences? Tu l'as dit, parler du fait que c'est pas si mou comme système. Les vraies conséquences d'être reconnu non criminellement responsable pour cause de santé mentale, c'est quoi? Parce que souvent, nous autres, on pense acquittement automatique.
Ouais, mais c'est pas ça. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a trois possibilités avec la non-responsabilité, allant de la plus molle, la plus molle à la plus dure. Dans le fond, la plus molle, ça va être une libération, une absolution inconditionnelle. On considère que tu étais dans un épisode où tu n'étais pas toi-même, mais qu'il n'y a pas vraiment de chance que ça revienne.
Il n'y a plus de risque pour la société. Il n'y a pas de risque si on te libère.
J'essayais de penser à des exemples en m'en venant. Tu sais, c'est pas si facile, mais je m'imagine, tu sais, quelqu'un qui fait un premier épisode de psychose, qui commet un acte violent ou même tuer quelqu'un, ça peut aller très loin. Donc, après l'arrestation, on le fait évaluer, on se rend compte que, ah, ben finalement, tu sais, cette personne-là, il y a une schizophrénie qui a été sortie à, tu sais, des fois, ça sort quand même vieux. La personne fait, ah, oh, mon Dieu, c'est terrible, accepte le suivi médical, prend sa médication, devient stable. Ben, on n'a pas vraiment de raison, quand il repasse devant le juge, de dire que cette personne-là est dangereuse pour la société. T'sais, une fois qu'on le sait, que c'est médicamenté, c'est plate. T'sais, les gestes ont été commis quand même, mais la réalité, c'est que c'est un problème de santé au même titre qu'un cancer ou qu'une grippe.
C'est juste
que
la conséquence...
Il y a justice... Écoute, en compassion, en comprenant que c'est un événement fâcheux.
Et que c'est difficile.
C'est vraiment difficile. Il y a justice. Là, je vais vous faire un clin d'œil, mais tu sais, c'est pas vraiment dirigé à vous, mais à tous les médias. Il y a justice si tous les médias ne propagent pas le message qu'il y a injustice.
Ouais.
Hein, parce qu'on l'entend systématiquement. Puis quand je t'ai écrit, tu sais, c'était vous, mais on l'entend dans tous les médias. Là. Dès qu'il y a de la non-responsabilité, tout le monde dit franchement, là, c'est encore un autre qui s'en sort.
Oui, parce que je prenais l'exemple d'entrée de jeu de Pierre-Nice Saint-Amand du côté de Laval, qui avait foncé avec un autobus dans une garderie. Moi, je pense à ces parents-là de petits poutres de 3 ou 4 ans qui ont perdu leur enfant. Hey, je suis désolée, mais ma compassion, là, n'est pas là pantoute. Là.
Jadis, j'avais vu un documentaire sur Pinel à Montréal, qui est l'établissement de détention psychiatrique à Montréal. Puis il montrait un homme qui, dans un épisode psychotique, a vu des démons, les a tués, et c'était ses propres enfants.
Oh Seigneur!
Mais lui, ce qu'il voyait, c'était pas ses enfants, non, c'était des démons.
C'était menaçant.
Il pouvait rien y faire.
Non. Fait que lui, quand il se réveille, qu'on le médicamente, tout ça, tu sais, il la paye, là.
Il va vivre jusqu'à la fin de ses jours avec le fait que tu es ses enfants.
Puis je pense que même si c'est pas tes enfants à toi, il y a des bonnes chances que tu en vives des remords assez solides, là. Hein? Des années de thérapie pour accepter que, bon, c'est ta santé qui a fait ça, que tu n'avais pas de contrôle, mais la peine, elle est là. Je pense
face,
que la justice est là.
Ta face a peut-être été dans les journaux aussi, là.
Puis c'est ça, tu sais. Puis l'opinion publique est pas bonne, est pas favorable aux gens qui ont une non-responsabilité parce qu'on connaît pas les dessous. Tu sais, ce qu'on entend dans les médias, c'est jamais le fond de l'histoire puis toute la vie de cette personne-là puis qu'est-ce qui l'a amené à vivre ça. J'ai travaillé justement avec des anciens combattants, des gens qui avaient des gros chocs post-traumatiques qui, dans un flashback, je n'en avais un que dans un flashback, il a attaqué des policiers puis ils ont été une méchante gang pour le calmer parce qu'il était pas mal entraîné. Mais lui, tu sais, dans le fond, ce qu'il m'expliquait, c'est la veste par balle du policier, c'était la même que le taliban. Quand il était en mission.
Fait que lui, il a vu ça.
Lui, il n'était pas fâché contre le policier, là, mais il s'est réveillé en détention à faire « Hey, qu'est-ce qui vient de se passer là? » Puis son psychiatre est allé témoigner en disant « Non, tu sais, effectivement, c'est un flashback, puis il se battait contre un taliban et non pas contre un policier. »
Ah, je comprends.
Fait que c'est plate pour le policier. Heureusement, il n'y avait pas eu de blessés graves, mais il n'y avait comme rien à voir là-dedans, malheureusement.
Oui, je comprends.
Fait que c'est vraiment... mais ce qu'il faut savoir, puis là, c'est ça, on parle de la version molle, les deux autres orientations possibles, bon, il y a une libération conditionnelle, où c'est tu as tel problème, à partir de maintenant, tu dois avoir un suivi régulier, tu dois prendre une médication, tu ne dois plus consommer, tu dois faire une thérapie, etc. Et tant que la personne maintient ça, ben on la considère correcte. On la considère pas dangereuse.
Pour moi, ça devrait être la première étape, là. T'sais, moi, j'ai un problème avec la libération non conditionnelle où on te libère, puis free for... C'est beau, on repart.
Ben, c'est ça, parce que je vais faire du pouce là-dessus. Je pense qu'une frustration que les gens ont... Puis c'est sûr qu'on parle toujours des cas négatifs, on se comprend.
Ben oui.
Mais rappelons-nous la policière du côté de Louisville qui a perdu la vie.
Maureen Bro, de mémoire.
Maureen Bro, effectivement. Merci, Max. Elle, le gars qui l'a attaqué, ça faisait 7 fois, là.
Oh oui,
qui passait par le système de justice. On savait qu'il y avait des gros troubles mentaux lourds, qui prenait pas sa médication. Il a fini par tuer quelqu'un.
Ouais. Ouais, mais tu sais, ça veut dire qu'il y a eu un manquement quelque part, là. Tu sais, ça, je pense que rendu là, c'est pas tant le système de justice que l'encadrement par la suite qui a été déficient. Puis malheureusement, tu sais, c'était dans les points que je t'avais écrit à la base. Tu sais, il faut faire la nuance entre les principes du système de justice puis ben, le sous-financement depuis des décennies qui font en sorte que l'encadrement n'est pas optimal. C'est la même chose quand on parle de la DPJ, c'est la même chose quand on parle d'un paquet de trucs. Si on remettait de l'argent là-dedans, c'est des bonnes machines, mais si on laisse les employés complètement surchargés,
ça marche pas.
Épuisés, ben, ça fait qu'on en échappe.
Donc là, il y a l'étape numéro un où on rentre quelqu'un, on le médicamente, on le sort, t'as la libération conditionnelle et...
Puis dans le fond, la différence, c'est que tu sais, le premier, on dit que ça devrait être tout le temps le deuxième qui est le premier, mais le premier, c'est que la personne, elle le fait d'emblée. Tu sais, elle collabore d'emblée, fait qu'on n'a pas besoin d'y imposer.
Ouais.
Fait que tu sais, dans ce cas-là, on y va avec le plus soft. Après ça, l'autre, bon, tu sais, on a des conditions. Et le troisième, qui est celui-là qui nous intéresse le plus, c'est quand finalement, on considère que la personne est dangereuse, mais non responsable. Fait que là, la personne, elle n'ira pas en prison, mais elle va aller dans un institut psychiatrique elle sera pas vraiment plus libre qu'en prison, on va se le dire, puis elle sera pas entourée de gens nécessairement plus le fun qu'en prison non plus. Mais elle va être là pour un suivi psychiatrique avec des infirmières, avec, c'est sûr, quand même, t'sais, des agents un peu costauds pour quand ça dégénère, mais on va imposer des soins. Et là, la partie que les gens connaissent pas, puis qui font en sorte qu'ils sentent que le système est mou, mais que moi, je trouve vraiment pas mou, c'est qu'une fois que tu es en institut psychiatrique, il n'y a pas de délai de sentence. Donc, tant que tu vas pas bien, tu es là. Fait que si tu avais été condamné au criminel, peut-être que tu aurais eu 2 ans. Puis tu serais ressorti après le 2/3 de ta peine en libération conditionnelle ou quelque chose comme ça.
Là, si après 5 ans, on sent que tu n'es pas prêt à sortir, ben, tu vas rester en dedans.
Tu restes là.
Ça, puis, c'est bien.
Fait que ça peut être long, là. Puis si tu restes dangereux toute ta vie, ben, tu vas rester là toute ta vie. Et après, une fois qu'on sent que tu es sécuritaire, ben là, on va te laisser partir avec une obligation de suivi, probablement une obligation de médication. Puis, tu sais, on les voit, là, moi, je travaille dans un hôpital, là, fait que si telle personne est supposée avoir son injection d'antipsychotique à toutes les 3 mois, puis qu'elle rate son rendez-vous, c'est la police, puis là, il cherche, il le trouve, il le ramasse, il l'amène, puis là, pfiou, il pique. Fait que c'est, tu sais, okay, ça niaise pas avec la POC, là. Ben non, c'est ça, c'est pris au sérieux.
On a souvent l'impression que libération conditionnelle, mais les conditions sont pas bien regardées.
Oui, ben tu sais, c'est sûr que je pense que pour le système de justice normal, tu sais, il y en a qui sont faciles à passer aux agents là quand même là. Tu sais, tu peux dire que ça va bien, que tu as fait des démarches pour un emploi puis tout ça, mais tu sais, par en dessous, ça se peut que tu aies quand même consommé puis que tu aies quand même fait des choses auxquelles tu n'avais pas le droit de faire. Par contre, dans le fond, c'est ça ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que tu es libéré, si tu vis à une sentence de dangerosité pour ta santé mentale, bien là, tu continues à voir un psychiatre, hein, tu continues à faire ton suivi, et n'importe quand dans ta vie, le psychiatre considère que le danger revient, oup, il te rentre en institut. Puis là, tu n'as pas le choix. Fait que là, tu as une deuxième sentence. Hein, il te rentre en dedans, puis là, il te regarde tout le temps qu'il a besoin pour te stabiliser, et ainsi de suite pour le reste de tes jours. Fait que ça se peut que ta sentence, qui, à la base, a l'air molle, finalement, se transforme en plusieurs sentences, en plusieurs épisodes où tu perds tes droits, tu perds ta liberté, tu retournes en institut psychiatrique le temps d'avoir des soins. Ça fait-tu du bien un peu d'entendre
ça? Ben, honnêtement, oui. Je
pense que c'est rassurant.
Oui, c'est rassurant parce que ça, vois-tu, on le sait pas.
Non, c'est ça. Il y a pas beaucoup de monde qui savent ça. Puis c'est important de le savoir que c'est pas juste « Ah, c'est correct, là, t'étais pas dans ton état, tu peux retourner chez vous. »
Pour les deux premiers cas, par exemple, une question que je me pose encore, c'est un coup qu'on a réglé le problème de médication, il y a pas moyen de leur faire faire leur prison?
Ben, c'est parce qu'elle n'aura aucun avantage social, cette prison-là. Mmh.
Cette personne-là peut être un actif dans la société, avoir une job, puis être un plus pour nous.
Oui, c'est ça. Elle peut avoir une job où elle aide du monde, où elle rend des services publics. Elle va payer ses impôts. Elle va être un coût de moins parce qu'on s'entend qu'envoyer quelqu'un en prison, c'est très cher. Puis, comme on disait tantôt, envoyer quelqu'un en prison, c'est lui faire côtoyer des gens qui ont des mauvaises habitudes.
Ça pourrait être négatif.
Oui, c'est ça. Question en deux temps. Comment on distingue en cours un problème de santé mentale d'une stratégie d'évitement de responsabilité criminelle?
Ben, c'est des évaluations psychiatriques. C'est sûr que c'est des évaluations assez approfondies. Ouais.
Films, on a l'impression qu'il y a de la corruption, puis que c'est une game d'avocats.
Écoute, ça fait longtemps que j'ai été dans un tribunal pour voir des cas de même. Là. Fut une époque où j'y allais un peu plus, mais règle générale, t'sais, les psychiatres, ils en ont vu d'autres, là. On est quand même capable de voir, selon certains points, à quel point la personne est en contrôle. Est-ce que son discours se tient dans le temps? Est-ce que, tu sais,
on
le voit, là.
T'as l'avocat du bord de l'accusé qui dit quelque chose du bord de l'accusé, puis là, t'as l'autre psychiatre, t'as le psychiatre de l'autre bord, que lui, là, tout d'un coup, son évaluation à lui, à l'autre psychiatre, avantage le bord de la couronne. Fait que là, t'es comme, bon, ben là, moi, je suis pas psychiatre, moi, je suis juge. Ouais. D'un bord, j'ai un psychiatre qui me dit ça. De l'autre bord, j'ai un psychiatre qui me dit le contraire. Comment je prends ma décision?
C'est sûr que c'est pas des sciences absolues. Puis, tu sais, on le voit, là, je veux dire, tu sais, les médecins comme les psychiatres, comme n'importe quel autre professionnel, peuvent être en désaccord. Par contre, ils ont quand même la responsabilité légale de le faire au meilleur de leur, leur connaissance, leur compétence. Hein. Si on se rend compte qu'un psychiatre a de l'air d'orienter sa décision pour faire plaisir à son client, ben il risque d'être un peu sur le spotlight. Là, pis, t'sais, il peut pas trop se mettre dans le trouble, mais est-ce qu'ils vont argumenter avec leurs arguments de diagnostic? Puis là, le juge aurait à faire, ben OK, tu sais, cette personne-là soulève un doute raisonnable ou, tu sais... C'est pas facile, là, ça mais sera. C'est, on est dans des grosses zones grises, mais règle générale, tu sais, les manipulateurs, on les spot, là.
Bon. Une autre question qui me chicote dans ce genre de sujet-là. En passant, si vous venez d'arriver, on parle avec Simon Rondeau, qui a fait son bac en criminologie, qui est travailleur social depuis à peu près une quinzaine d'années, intervenant depuis plus de 20 ans. Puis on parle de la non-responsabilité criminelle pour cause de santé mentale. Est-ce qu'on prend en compte la consommation? Je m'explique. Il y a des maladies mentales ou des psychoses qui sont déclenchées par la consommation, les drogues, l'abus d'alcool et compagnie. Et à mon sens, je suis peut-être dure, mais à mon sens, c'est de ta faute si tu te ramasses en psychose parce que tu consommes comme un défoncé depuis des années, tu sais.
Oui, j'avoue que je m'étais dit que je chercherais là-dessus pour être à jour, puis il m'en manque un petit bout, là. De mémoire, c'est quand même pris en considération.
C'est pris en
là,
considération,
de mémoire,
ça me rassure.
Oui, mais
parce que je me dis, t'as tué quelqu'un, mettons, mais c'est parce que tu consommes depuis des années et t'as déclenché ta propre psychose.
Oui, oui,
parce
c'est ta huitième, c'est un peu tannant, là. C'est un peu dur de justifier que tu savais pas que ça irait là, là. Mais c'est ça. Faudrait que je valide. Je pourrais te revenir avec la réponse.
Reviens-moi, puis je la donnerai
voir
aux auditeurs.
On en est où présentement par rapport à ça, là.
Avant de te laisser partir, je vais te poser la question générale. Tu travailles en santé mentale. Elle se porte comment réellement au Québec? On a l'impression que c'est le free for all, puis qu'on est en train de débouler une pente. C'est-tu si pire que ça?
C'est l'enfer.
Ah, arrête, pour vrai?
Oui, oui, c'est l'enfer. Puis, tu sais, vraiment, depuis la pandémie, il y a eu un coût social avec la pandémie là, qui est incroyable. Tout le monde est un peu... J'ai l'impression que tout le monde est rendu un peu en stress aigu tout le temps. Les gens sont plus agressifs.
Irrités, si on leur manque beaucoup ces routes.
Oui, c'est incroyable sur les routes comment on la ressent, la post-pandémie. Les gens se sont divisés. Hein. Il y a des familles qui se sont brisées à cause de ça. Des amitiés aussi. Fait que oui, le coût social est très, très difficile. Moi, dans le fond, c'est ça. Tu sais, je travaille à l'urgence physique à Saint-François. Puis je travaille aussi dans un organisme communautaire où je fais plus du bureau, justement, le plus de la consultation, de l'aide psychologique. La montée des listes d'attente a été fulgurante. Maintenant, c'est difficile de trouver quelqu'un, même au privé.
Ouais.
Ils nous rappellent même pas.
Ah oh, non, c'est
parce
vraiment...
Parce que, je veux dire, ça leur prendrait un adjoint administratif puis, à temps plein pour retourner les appels.
C'est une frustration, c'est aussi des gens de se dire, les criminels, eux autres, sont capables d'avoir un psychiatre puis une aide psychologique, mais nous autres, en prévention, on n'est pas capables de s'aider, tu sais.
Tout à fait.
Ça
puis,
devient dur. Là.
Puis, ben comme je disais tantôt, hein, on définance, on coupe des postes depuis des années. Moi, je le vis plus depuis, disons, Barrette, mettons.
Mmh.
Depuis Barrette, on voit les postes se faire couper, puis là, oh, on les remplace pas. Puis là, on continue avec Santé Québec, faut couper. Donc, l'aide de première ligne publique est très, très, très difficile à rejoindre. Puis, ben on a quand même des petites équipes de crise là, qui peuvent intervenir plus vite, mais on a comme un trou entre la crise puis la prise en charge où on peut avoir des mois et des mois et des mois de délai. On s'entend que la consultation privée est rendue extrêmement chère, puis les gens...
C'est épouvantable.
Les gens ont de la misère à payer leur épicerie, fait que c'est pas tout le monde qui a accès à quelqu'un à 150 $ pour faire leur suivi. C'est pas une belle période, puis... Puis je lisais un texte, une amie m'a partagé un texte sur un professeur d'anthropologie de Montréal qui disait que c'était comme si l'évolution de l'humain nous avait rendus très vulnérables, que c'était comme une évolution vers la faiblesse. Puis j'ai un peu de la misère avec ce côté-là. Je pense que ça éclipsait beaucoup le côté où on n'a jamais été autant à pression. On nous demande une productivité qui est infernale, qui est loin, loin, loin dépasser ce que nos ancêtres ont vécu. Faut toujours faire plus avec moins. Faudrait réussir à travailler.
C'est un peu de notre faute, on dirait. Hein? C'est un cercle vicieux.
Il y a quelque chose qui est très une question de société. Là. Oui. Puis, tu sais, je veux pas sonner anarchiste, mais tu sais, de capitalisme, là, où on presse le citron tout le temps le plus possible, puis on voit une poignée de gens qui ramassent tout l'argent, toutes les ressources pendant que les autres en arrachent. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas un ami de la santé mentale.
Ouais,
les inégalités puis tout ça, c'est très difficile. Fait que non, la santé mentale ne va pas bien et l'aide est vraiment difficile à avoir présentement.
Simon Rondeau, t'as des idées comme ça, tu débarques quand tu veux, la porte du studio est toujours ouverte. Merci beaucoup de t'être déplacé ce matin.
Merci de m'avoir reçu, c'est le fun.
C'est un grand plaisir.
N'importe quand.
Simon Rondeau, qui est travailleur social depuis une quinzaine d'années, intervenant depuis plus de 20 ans, bac en criminologie, on parlait ce matin de tout ce qui est non-responsabilité criminelle pour cause de santé mentale. Ça va se retrouver sur le blvd.fm et sur la chaîne YouTube.
Au retour, on reste dans un certain sens, dans un sujet un peu semblable, vous allez comprendre, là. L'Association pour la santé publique du Québec qui invite à l'ouverture d'un dialogue sur la consommation de cannabis et d'alcool chez les personnes aînées. On en parle avec Alexandre Langevin, qui est chargé de projet en substances psychoactives, dis-je mal, de l'association. Vous écoutez Le Point de Max, il est 11h32.
Le Point de Max. Le Point de Max.